Salut et bienvenue à toi, amateur d'écologie, mais aussi individu soucieux du bien-être de ton porte-monnaie. Je suis très heureux de t'accueillir dans ce premier épisode du podcast de la Terre dans les épinards. Pour rappel, dans ce podcast, on parlera de sujets liés à l'écologie sous l'angle des finances personnelles et on cherchera comment rentrer dans une démarche écologique sans gréver son budget. Mais soyons honnêtes, au risque de te décevoir. Et oui, déjà, ces solutions ne seront probablement que rarement des solutions absolues et parfaites, les sujets écologiques étant tellement imbriqués les uns dans les autres qu'il est souvent difficile de trouver des alternatives permettant de cocher tous les critères de prix modéré, de zéro déchet, d'empreinte carbone réduite, et j'en passe. Bref, rentrons dans le vif du sujet. Pour ce premier épisode, j'ai décidé de parler du sujet de la surconsommation, parce que c'est, à mon sens, la croisée des chemins entre la grande majorité des problèmes écologiques et des problèmes de budget. Rappelons le contexte, on vit dans une société de consommation, le système économique en place nécessitant la circulation de l'argent pour pouvoir fonctionner. La consommation en soi ne me paraît donc pas être un problème dans l'absolu, elle permet à l'être humain de se nourrir, s'habiller, se loger ou encore se déplacer, tout en assurant une certaine stabilité économique. La définition de la consommation telle qu'elle est donnée par la 9e édition du dictionnaire de l'Académie française est la suivante. Utilisation de biens et de services destinés à satisfaire les besoins individuels ou collectifs. Malheureusement, cela fait maintenant quelques décennies que nous avons dépassé ce stade et que notre consommation excède nos besoins réels, aboutissant à ce phénomène de surconsommation. Peut-être que toi qui m'écoutes, tu vas te dire « Ok, c'est évident qu'on en est au stade de la surconsommation, on pourrait peut-être passer l'intro ?» Il me semble quand même utile de faire ce rappel. Pourquoi ? Parce que tout un chacun ne réalise pas nécessairement qu'il a atteint ce stade de la surconsommation. Il est souvent difficile de faire le ménage devant sa porte. La surconsommation, c'est la consommation au-delà de ses besoins réels. Et le problème tourne autour de la notion des besoins réels qui peut être sujette à débat. Les adeptes de la pyramide de Maslow noteront que ces besoins réels présentent de multiples facettes, allant de la survie à l'accomplissement de soi, et il est délicat, sinon impossible, de définir ce que chaque être humain estime être un besoin réel. Qui n'a jamais eu envie de faire un achat pour se remonter le moral ? S'agit-il d'un besoin réel parce qu'il s'agit d'aller mieux, même si l'achat en lui-même n'est pas nécessaire, indispensable à notre vie quotidienne ? Waouh, on est parti dans de la philosophie. Bon, revenons sur terre dans nos épinards et regardons les faits. Objectivement, les preuves de la surconsommation sont multiples. Gaspillage élémentaire ou destruction de vêtements non vendus à l'échelle des entreprises, remplacement d'objets non encore obsolètes, achats inutiles tels que des vêtements jamais portés, lumière des boutiques allumées la nuit ou dans une pièce vide de la maison. Et cette surconsommation, admise comme telle ou pas, est problématique pour au moins deux raisons assez évidentes. L'excédent de consommation a un impact écologique qui pourrait être évité car il ne correspond pas à un besoin réel et qui peut mener à terme à un épuisement des ressources naturelles. Et deuxième raison, il grignote ton pouvoir d'achat inutilement. Il ne s'agit pas ici de rentrer dans le détail des conséquences de la surconsommation sur la planète et les espèces animales et végétales, incluant l'être humain, hein, au passage. Conséquences dont tu as déjà probablement une idée assez précise. Nous allons donc essentiellement nous intéresser à la manière de limiter la casse au niveau du porte-monnaie, ce qui, par voie de conséquence, ne peut que soulager l'environnement. La première étape est probablement la plus difficile et la prise de conscience de sa propre surconsommation. Il faut comprendre que la surconsommation trouve ses origines dans les 30 Glorieuses. La manière de consommer à l'issue de la Seconde Guerre mondiale a considérablement changé, en parallèle de l'apparition d'un discours marketing incitant de plus en plus à la consommation. Les notions de confort et de prestige social ont pris de plus en plus de place. Ce mode de consommation s'est donc quelque part inscrit dans l'inconscient collectif et a longtemps été considéré comme normal, jusqu'à sa remise en cause profonde ces dernières années. Les publicités sont partout autour de nous, dans la rue, sur nos écrans, et cette omniprésence laisse à penser que nous avons besoin, sans cesse, de nouveautés et donc que surconsommer est normal. Pire encore, la banalisation de la surconsommation, à mon sens, occulte son impact néfaste pour l'environnement. Puisque, après tout, il est dans l'ordre des choses de surconsommer, pourquoi donc cela aurait-il un impact écologique ? Il est donc autant primordial que difficile, à son échelle, d'arriver à prendre conscience et de développer un esprit critique sur ces sujets. Pour prendre conscience du phénomène de notre surconsommation, commençons par jeter un coup d'œil à notre environnement quotidien. Notre placard contient-il des chaussures que nous n'avons portées qu'une fois, le jour de leur achat ? Notre garde-robe contient-elle des vêtements que nous avions oubliés ? Laissons-nous la lumière allumée dans toutes les pièces de notre habitation alors que nous passons le plus clair de notre temps uniquement dans l'une d'entre elles ? Est-ce qu'on laisse l'eau du robinet couler pendant qu'on se lave les dents ? Est-ce qu'on a remplacé récemment notre smartphone, notre télévision, canapé, ordinateur, piano parce qu'un nouveau modèle semblait plus performant ou plus prestigieux ? Avons-nous retrouvé une ponceuse jamais sortie de son emballage parce que nous n'avons jamais mené à bien ce fameux projet que nous avions eu un jour de rénover nos meubles ? La liste est bien entendu non exhaustive, mais si nous nous sommes retrouvés d'une manière ou d'une autre dans l'une de ces situations, alors nous sommes sans doute atteints du syndrome de la surconsommation. Ne t'inquiète pas, ça se soigne. Alors, je précise tout de suite qu'il ne s'agit pas de juger ou de culpabiliser. La surconsommation, c'est malheureusement inscrite dans les gènes de notre société, et en prendre conscience à son échelle n'est pas un exercice facile. Mais quand on dépense 1000 euros pour une nouvelle télé alors que l'ancienne fonctionnait encore très bien sous prétexte d'une meilleure qualité d'image, on peut tout de même se demander si ces 1000 euros n'auraient pas pu être investis ailleurs. Par exemple, selon vos goûts, un voyage à l'étranger, 50 repas avec des amis, 4 semaines de courses, ou tout simplement pour épargner un peu. Il faut se méfier des promesses du toujours plus de confort. L'objectif d'une entreprise, c'est de nous vendre un produit ou un service. Si elle nous a déjà vendu une télévision, il faudra bien qu'elle trouve un moyen de nous en vendre une autre, sans quoi elle peut plier boutique. Le prétexte peut être un nouveau standard de qualité d'image ou un écran plus grand. La téléphonie mobile, elle, nous vend la 3G, puis la 4G, puis la 5G, puis la 6G, puis la 7G, puis la 7G, puis la 7G. A-t-on vraiment besoin d'une connexion plus rapide lorsque les pages internet s'affichent déjà quasi instantanément ? Qu'est-ce qu'on retire d'une vitesse d'affichage plus rapide que ce que notre œil peut percevoir ? D'un gain de quelques dizaines de secondes sur un téléchargement. En d'autres termes, est-ce que c'est nécessaire de dépenser plus pour passer d'un niveau de confort de 9 sur 10 à 9,05 sur 10 ? Si tu as réalisé ton auto-diagnostic et tu as noté que tu avais effectivement une légère tendance à la surconsommation, je t'invite à rester avec moi pour voir comment essayer de limiter le phénomène. Dans le cas contraire, n'hésite pas à faire une pause et faire cette petite introspection. Je pense que la prise de conscience est un prérequis essentiel. Et si tu fais partie de ces gens qui consomment déjà de manière raisonnable, eh ben d'abord, félicitations. Je t'invite tout de même à rester parce que déjà, c'est plus sympa. Et ensuite, il y a peut-être deux ou trois trucs qui pourraient t'intéresser. Alors, maintenant qu'on sait que l'on consomme trop, qu'est-ce qu'on fait ? Bonne question. On l'a vu, la surconsommation correspond à un excès de consommation par rapport aux besoins réels. J'évoquais plutôt la notion subjective de besoin réel et la difficulté qu'il y a à définir ce besoin. Chacun aura sa propre définition. Hormis les besoins nécessaires à la survie et partagés par l'ensemble des individus, tu définiras également tes besoins par rapport à ta situation personnelle et à tes passions. Un philatéliste, par exemple, voudra investir dans de nouveaux timbres, un adepte de la mode dans des nouveaux vêtements, un collectionneur de voitures dans des voitures, t'as compris l'idée, je pense. Tandis que les timbres, les vêtements ou les voitures pourront paraître futiles à certains, ils seront essentiels à d'autres. Si c'est ce qui te fait vibrer, alors un bon point de départ est de commencer par réduire ta surconsommation dans les autres domaines de ta vie, dans lesquels tu constates un laisser-aller. Il est plus facile de changer ses habitudes lorsque l'on n'est pas tiraillé entre des sentiments contradictoires, en l'occurrence, assouvir une passion et protéger l'environnement et son porte-monnaie. L'impact de la mode sur l'environnement commence à être bien connu, mais si c'est un domaine qui te passionne, c'est à mon sens contre-productif sur une démarche de long terme de commencer ta démarche de transition écologique dans ce domaine. Mieux vaut s'attaquer à des domaines sur lesquels tu accepteras plus facilement les compromis. Si par exemple tu as investi dans une tenue de sport que tu n'utilises jamais, on l'a tous fait, alors sois vigilant lors de tes futurs achats dans le domaine du sport. Une tenue de sport suffit, surtout si elle reste au placard. À la limite, achète-en une deuxième pour tenir compagnie à la première, et puis tiens-t'en là quoi. Donc, identifier les domaines à surveiller, c'est un premier pas. Il s'agit ensuite, pour tous les achats que tu vas faire, d'évaluer ton besoin. Ça peut passer par la pondération des critères suivants. La nécessité, est-ce qu'il s'agit de remplacer un pantalon qui est complètement usé ? La durabilité, dans combien de temps le produit va devenir obsolète ? Le rapport qualité-prix, le prix d'achat potentiellement élevé est-il cohérent avec la qualité du produit ou du service ? Ça ne veut pas dire nécessairement acheter pas cher, mais plutôt est-ce que le prix est juste compte tenu de ce qui t'est proposé. Un vêtement cher mais de qualité devrait tenir sur la longueur et éviter d'autres achats, d'où sa rentabilité à moyen terme. Autre critère, le dimensionnement. Est-ce adapté à l'utilisation que tu en auras ou est-il surdimensionné? Par exemple, pour faire l'aller-retour entre le travail et la maison, est-ce que c'est nécessaire d'acheter un 4x4? Ensuite, l'usage prévu. Vais-je utiliser cet outil plusieurs fois? Sinon, est-ce que je peux le louer? Cette liste de critères, elle est bien entendu non exhaustive, mais elle peut t'aider à pondérer ton achat. Il y a aussi un autre concept qui me paraît essentiel à prendre en compte. Dans l'excellent livre « Le Personal MBA », dont je te recommande fortement la lecture, Josh Kaufman aborde notamment la notion d'adaptation hédoniste. Sous cette expression relativement absconse au premier abord, se cache le concept d'épuisement du plaisir dans le temps. Lorsqu'on achète un nouveau produit, par exemple un nouveau t-shirt, on est content de son achat et on ressent une certaine joie. Cette joie perdure lors de notre trajet de retour chez nous, puis éventuellement lorsque l'on porte ce vêtement pour la première fois. Au fil du temps, ce sentiment s'étiole jusqu'à disparaître, jusqu'à ce que finalement ce t-shirt ne soit plus qu'un t-shirt parmi d'autres. Alors avant chaque achat, essaie d'anticiper cette adaptation hédoniste. Pourquoi souhaites-tu acheter cette montre? Si l'aspect fonctionnel est secondaire et que le style est privilégié, pose-toi la question, l'investissement vaut-il le coup? Sans mauvais jeu de mots. Si le plaisir ressenti lors de l'achat aura disparu d'ici une semaine ou un mois? Ou alors vu autrement, ai-je envie d'acheter cette montre pour me retrouver dans la même situation émotionnelle que maintenant, mais dans une semaine ou un mois, avec 250 euros en moins sur mon compte bancaire? La réponse n'est pas universelle, mais cette introspection te fera peut-être prendre conscience que, au fond de toi, l'investissement n'est peut-être pas si intéressant que ça. Si tu as des doutes, tu peux appliquer une autre technique qui a fait ses preuves. Prends le temps avant d'acheter. Si au bout de quelques jours, voire quelques semaines, tu ne penses plus à cette montre, bah, peut-être bien que tu as bien fait de ne pas l'acheter. Dans le cas contraire, peut-être qu'elle te plaît réellement et que tu vas finalement décider de l'acheter. Personnellement, j'ai fait quelques économies rien qu'avec cette petite astuce. C'est forcément un peu frustrant sur le moment, mais à moyen terme, t'es bien content de ne pas avoir fait d'achat compulsif. À mes yeux, l'adaptation hédoniste ramène à une question centrale quand on parle de consommation, à savoir, qu'est-ce qui me rend heureux? La définition du bonheur correspond à mon sens à un équilibre émotionnel global sur du long terme. Certains jours, on pourrait déplacer des montagnes, d'autres, le moral n'est pas au beau fixe. Être heureux tous les jours relève de l'utopie et on est heureux, selon moi, si en regardant en arrière, les hauts et les bas s'équilibrent avec un léger avantage pour les hauts. C'est ma définition personnelle et peut-être un peu approximative du bonheur. Mais partant de là, le constat est que du fait de l'adaptation hédoniste, je ne trouverai pas le bonheur dans la surconsommation qui ne peut apporter qu'une satisfaction de court terme. Alors ça a un côté plutôt rassurant, puisque ça signifie qu'il n'est pas fondamentalement nécessaire de dépenser régulièrement des sommes plus ou moins importantes d'argent pour être heureux. La plupart des achats futiles sont liés à des baisses de morale. L'achat permet pour un certain temps de compenser facilement une déprime passagère ou une contrariété. Mais très souvent, la déprime passagère ou la contrariété, elle revient peu de temps après. D'autres remèdes moins coûteux peuvent être envisagés dans ces cas-là. Voir du monde, monter un projet à moyen terme, apprendre de nouvelles choses, etc., etc. Bon, ben, on a déjà pas mal avancé. J'espère que tu suis toujours. On a donc parlé de l'évaluation du besoin. Évaluer son besoin avant d'achat, c'est une bonne habitude à prendre, mais elle présente l'inconvénient d'être coûteuse en énergie. Elle te demande de faire preuve de volonté. Malheureusement, notre jauge de volonté s'épuise au cours de la journée et elle se recharge après une nuit de sommeil. Donc plus tu dois réfléchir tard dans la journée à une décision d'achat, moins tu auras envie de mener cette réflexion, ce qui va se traduire par un achat effectif. Alors le mieux, c'est encore de ne pas avoir à te poser la question et donc de ne pas ressentir le besoin d'acheter. Un bon moyen pour ça, c'est de fuir les publicités. Le but de la pub, c'est de créer un besoin qui n'en est pas un pour vendre un produit ou un service. Avant de voir ou d'entendre la pub, t'étais tranquillement en train de faire un peu de rangement, de te promener dehors en voiture, dans la campagne ou de regarder un film. Après la pub, tu sors ton smartphone, sauf si t'es en voiture, bien évidemment, pour te renseigner sur le produit révolutionnaire dont tu viens d'entendre parler. Ou alors tu te mets dans un coin de la tête, si t'es en voiture, qu'il faudra te renseigner sur ce sujet plus tard. Et puis vient le moment fatidique, je pourrais peut-être l'acheter, tiens ça a l'air cool. Et voilà, trop tard, le besoin s'est insinué en toi. Imaginons la même scène si tu n'avais pas entendu ou vu la publicité. Tu continues ton rangement, t'admires le paysage, tu vas préparer une infusion avant de poursuivre le film. Et t'as besoin de rien d'autre. Le fameux produit en question n'a jamais fait irruption dans ta vie et le fera peut-être jamais. Finalement, t'en avais peut-être pas tant besoin que ça. Tout ce que tu demandes à cet instant, c'est de finir ton rangement, profiter de la balade et apprécier ton film. Alors, lorsque vient le moment des publicités, hésite pas, coupe la télé, éteins la radio. Tu peux aussi installer un bloqueur de pub pour Internet. Et si tu es confronté à une publicité vantant un produit qui éveille ton attention, prends conscience de ce qui suit. Si le besoin d'achat que tu ressens n'était pas là avant la pub, c'est que ce n'est pas un besoin réel. L'environnement te le rendra, et ton porte-monnaie aussi. Pour l'anecdote, il est intéressant de noter que le site internet nogesteclimat.fr, qui te permet de simuler ton empreinte carbone, consacre un poste entier dans les actions à entreprendre pour diminuer ton empreinte carbone, aux publicités et aux soldes, indiquant qu'il vaut mieux les ignorer, limitant ainsi la surconsommation et permettant de diminuer ton empreinte carbone de fait, dans la mesure où les divers produits faisant l'objet de publicité ne sont dès lors remplacés que lorsque c'est indispensable et non seulement à cause d'un effet de mode. Pour être plus explicite, tu remplaceras ton téléphone que lorsque celui-ci ne sera plus réparable et non parce qu'un nouveau modèle vient de sortir. Un petit mot aussi concernant les zones commerciales. Elles regroupent tout un tas de commerces et sont donc super pratiques pour regrouper des achats. Mais c'est à double tranchant. C'est un lieu où tu trouveras un concentré de pubs qui risque d'épuiser rapidement ta jauge de volonté. Le risque est bien sûr que tu fasses plusieurs arrêts dans diverses boutiques, dans lesquelles tu n'avais pas envisagé de passer initialement, évidemment. Si tu dois acheter quelque chose de précis, privilégie si tu peux une boutique spécialisée hors centre commercial. Ça t'évitera d'être tenté de réaliser un ou deux achats compulsifs. Et rappelle-toi, tu as déjà deux tenues de sport dans ton placard, alors sois raisonnable. On arrive sur un concept clé pour tes finances qui peut sembler assez évident lorsqu'on l'énonce, mais qui est toutefois loin de l'être. Ne pas dépenser l'argent qu'on n'a pas. Alors je t'entends déjà, qui peut dépenser l'argent qu'il n'a pas et surtout, comment ? Deux moyens pour ça, le premier est connu de tout le monde, il s'agit du crédit bancaire. Le recours au crédit est parfois incontournable, par exemple pour acheter sa résidence principale, la majorité des gens n'ayant pas les moyens d'acheter comptant une maison ou un appartement. Il s'agit alors d'un crédit immobilier que vous utilisez pour acheter un logement. Le recours à un crédit pour acheter un bien de consommation a, à mon sens, un caractère plus discutable. S'agit-il d'acheter une voiture ou une télévision ? La voiture te permettra de te déplacer, la télévision de regarder des films, des séries ou des infos. Alors n'hésite pas à revenir aux critères mentionnés plus haut relativement à l'évaluation du besoin, à savoir la nécessité, la durabilité, rapport qualité-prix, dimensionnement et l'usage prévu. Si tu en as la possibilité, évite les crédits à la consommation. Ça plombe tes finances personnelles pendant quelques mois, voire quelques années. Et rappelle-toi que prendre un crédit revient à dépenser l'argent que tu n'as pas. Le second moyen est un peu plus sujet à débat car il est essentiellement comptable. Supposons que tu aies 200 euros sur ton compte en banque et que tu touches un salaire de 1500 euros à la fin du mois de juin. Tu as donc 1700 euros sur ton compte le 30 juin. Et tu arrives au 31 juillet en ayant dépensé en achats divers, abonnements, etc., etc., 1470 euros. Il te reste donc 230 euros en tout. Le même jour, tu vois un meuble qui te plaît à un prix de 140 euros. Tu fais quoi ? Ton compte en banque te dit « Bah, c'est bon, tu peux l'acheter. Il te reste alors 90 euros. » Mon conseil, tu l'auras deviné, c'est le suivant, n'achète pas. La raison est simple et comme évoqué plus haut, purement comptable, tu as touché fin juin un revenu de 1500 euros, considère qu'il s'agit d'une somme imputable aux dépenses du mois de juillet. Si tu achètes le meuble, tu auras dépensé 1610 euros et tu seras donc pour le mois de juillet en déficit de 110 euros. Autrement dit, tu auras dépensé 110 euros que tu n'as virtuellement pas. Pour éviter ça, n'hésite pas à tenir des comptes de tes dépenses et de tes revenus et vise un solde positif à la fin du mois. Tu peux aussi attribuer une somme à dépenser par semaine si tu veux pour plus de contrôle. Tu peux profiter de cette tenue de compte pour essayer de te constituer une épargne de précaution qui te permettra de te couvrir des imprévus éventuels, par exemple. En général, il est considéré qu'une épargne de précaution doit être équivalente à 6 mois de tes revenus mensuels, à plus ou moins, c'est une moyenne. Un autre moyen connu de ménager l'environnement est ton porte-monnaie et d'acheter d'occasion. Côté environnement, le bien acheté est réutilisé et il n'est pas nécessaire d'exploiter des nouvelles ressources pour le fabriquer. Côté porte-monnaie, bah, tu payes moins cher que le neuf, donc tout le monde y gagne. Emmaüs et Le Bon Coin sont des exemples bien connus parmi tant d'autres qui te permettent d'acheter des produits variés tels que des meubles, livres, CD, DVD, vaisselle, vêtements, etc. n'hésite pas à te renseigner autour de toi ou sur Internet pour connaître les initiatives locales. Bien entendu, le marché de l'occasion ne propose pas du sur-mesure, c'est-à-dire que si tu cherches un produit particulier, il y a des chances que tu ne le trouves pas. C'est d'ailleurs généralement ce qui pousse les consommateurs à se tourner vers du neuf. On sait où le trouver et ça correspond à nos goûts. Rien n'est parfait. En contrepartie, le marché de l'occasion te permet tout de même de sacrées économies. Tu achèteras par exemple chez Emmaüs des meubles autour de 50 euros au lieu de plusieurs centaines d'euros, c'est pas rien. Et oui, il ne sera pas exactement de la couleur que tu souhaitais. Oui, il sera légèrement plus petit que celui que tu recherchais. La question qui se pose, est-ce si fondamental ? Dans le pire des cas, si tu n'arrives pas à t'habituer à ton meuble, tu peux par exemple le revendre et il t'aura rien coûté de plus que quelques tracasseries que tu pourrais avoir d'ailleurs de la même manière pour échanger un produit neuf. Dans le meilleur des cas, tu te rends compte que finalement, il ne fait pas si mal dans la salle à manger et tu as économisé 500 euros. Rien ne t'oblige d'ailleurs à t'initier à l'achat d'occasion en commençant par les meubles. Tu trouveras facilement de la vaisselle ou des chaussures à quelques euros. Essaie de faire quelques petits achats de ce genre, ça te permettra de t'habituer progressivement. Le dernier point que je voulais aborder, mais pas des moindres, est la force de l'habitude. La raison pour laquelle l'écologie est devenue un sujet central à notre époque vient du fait que nos habitudes de consommation et plus généralement notre mode de vie n'est pas en adéquation avec notre environnement. Dans la plupart des pays occidentaux, l'être humain mange trop et mal. Ça induit un élevage et une agriculture intensive. Ça implique de maximiser les rendements agricoles et donc nécessite notamment le recours à des produits chimiques nocifs, aussi bien pour l'être humain que pour son environnement. Or, pour produire des aliments sains, la nature a besoin de temps. Une année compte 4 saisons, je pense que je t'apprends rien. Chacune d'entre elles est nécessaire à la production de notre nourriture selon un cycle naturel. L'être humain a un besoin toujours plus important de facilité et de confort. Combien de nouvelles technologies proposent d'épargner un effort à son utilisateur ? Tout est maintenant livré à domicile, les GPS font passer les conducteurs en conduite passive et automatique, les télécommunications développent des réseaux de plus en plus rapides, et il suffit de poser une question à son téléphone pour nous économiser une recherche et obtenir une réponse rapide. Or, l'être humain a besoin de faire fonctionner son corps par l'effort physique, autant que son esprit par l'effort intellectuel pour le maintenir en bon état de marche. Il ne s'agit pas de nier leur côté positif, ni la délicate et primordiale question de l'accès à la nourriture pour une population toujours grandissante. Il s'agit simplement de recentrer l'homme avec son environnement. Il n'est pas possible d'aller toujours plus vite, la nature n'est pas prévue pour ça et ça épuise ses ressources. Il n'est pas possible d'aller toujours vers plus de confort et de facilité. L'être humain n'est pas prévu pour ça et ça détériore la machine, à savoir son corps et son esprit. Comme pour beaucoup de choses, tout est question d'équilibre. Il est donc essentiel de revoir nos habitudes de vie. Mais le problème d'une habitude, tu dois le savoir, j'imagine, c'est qu'elle est difficile à changer. Tous ceux qui, sur une résolution de nouvel an, ont voulu se mettre au sport sur du long terme pourront en témoigner. Il suffit pas de le dire pour y parvenir. Une habitude est un schéma ancré dans le cerveau, un sillon qu'on y a gravé patiemment en répétant la même action au quotidien. Pour la modifier, il faut donc tracer un autre sillon avec d'autres actions suffisamment longtemps pour que le cerveau emprunte cette nouvelle voie. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il faut du temps et de la volonté pour changer une habitude. La bonne, c'est que c'est possible et relativement simple sur le papier. Il faut répéter une action encore et encore jusqu'à ce qu'elle devienne prépondérante. Lorsque vous aurez réussi et que vous verrez plus tard une paire de chaussures magnifiques dans un magasin, vous ne vous direz plus « il me la faut, mais c'est vraiment cher pour ce que c'est, ils se font une marge de fou sans compter l'impact carbone nécessaire à sa fabrication. » Ouais, ou quelque chose dans ce goût-là, quoi. Personnellement, j'ai eu ma période où j'aimais bien aller dans les boutiques acheter de nouveaux vêtements. Maintenant, je passe devant sans manifester d'intérêt, trouvant tout ça démesurément cher et finalement absurde par rapport au prix réel du vêtement et de sa qualité. Et aux conséquences écologiques qui sont liées à tout ça. Pour faciliter les nouvelles habitudes, commence petit. N'essaie pas de modifier toutes tes habitudes de vie en même temps, ça sera probablement trop colossal pour un début. Commence par exemple par acheter en vrac plutôt que sous emballage. De prendre ton vélo ou tes jambes, pourquoi pas, soyons fous, pour un déplacement sur une petite distance plutôt que ta voiture. De fabriquer ton déodorant maison. Choisis une action écologique, celle que tu veux, et applique-toi à la mettre en œuvre dans ton quotidien. Au bout d'un certain temps, ça te demandera plus d'efforts. Bravo, t'as mis en place ta nouvelle habitude. Voici venu le temps d'en choisir une autre. L'avantage de procéder ainsi, c'est que tu gères une nouvelle action à chaque fois, ce qui n'épuise pas trop ta jauge de volonté. Pour t'aider à choisir de nouvelles actions à mettre en place dans ta vie, je te recommande la lecture du livre « Écologique sans me ruiner » d'Aline Gubry. Tu trouveras plein de petites idées, tu pourras piocher celles qui t'intéressent. Bon, et ben voilà, ça fait pas mal d'infos tout ça. Ce premier épisode touche à sa fin, mais avant de conclure, je voudrais rajouter un point, peut-être bien le plus important d'ailleurs. Et oui, le meilleur pour la fin. Ce dernier point, c'est oublie tout ce que je viens de te dire.
What? Remboursé.
Bon, ok, peut-être pas tout, mais il me semble essentiel de temps en temps de lâcher prise et de se faire plaisir. Tant pis si ton achat n'est pas 100% écolo. C'est même parfois salutaire. Qui serait capable de tenir un régime alimentaire strict sur le long terme s'il craquait pas de temps en temps pour un fondant au chocolat ou un bon burger? C'est un mal pour un bien. De toute manière, trouver un produit 100% écolo est pratiquement mission impossible tant les aspects à prendre en compte sont variés. Zéro déchet, émissions carbone, déforestation, espèces animales en voie de disparition, et j'en passe. Et l'offre est encore imparfaite. Donc la chose à retenir, ne te culpabilise pas si tu n'arrives pas à respecter ton nouveau cahier des charges écolo. Sois tolérant envers toi-même. Limiter sa surconsommation n'est pas un exercice facile, en particulier parce que ça demande de modifier notre mode de vie qui est profondément ancré en nous. Par ailleurs, tout dépend pas non plus entièrement de nous, de nos jours. La demande a tendance à évoluer vers l'écologie, mais il faut un certain temps pour que l'offre suive. Une entreprise a ses habitudes, et changer de modèle nécessite du temps pour elle aussi. La conversion en bio d'une entreprise agricole, c'est un bon exemple, par exemple. Encourager une telle conversion nécessite d'acheter pas tout à fait écolo, mais est-ce que c'est pas finalement un bon pas dans la bonne direction? Allez, chacun apportera la réponse qu'il souhaite à cette question. En attendant, on arrive à la fin de ce premier épisode. J'espère que ça t'a plu. En tout cas, moi, j'étais très content de faire ce premier épisode. Très, très content. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner aux pages Instagram de La Terre dans les Épinards, à la newsletter du site, bref, à tout. Et n'hésite pas à me dire aussi dans les commentaires s'il y a des sujets liés à l'écologie au quotidien que tu aimerais voir abordés dans les futurs épisodes. Et je verrai ce que je peux faire. En attendant la semaine prochaine, prends soin de toi, de ton environnement, de ton porte-monnaie. Et on se retrouve en pleine forme. Salut !